Vous écoutez RTL. C'est l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Et on a le plaisir de vous retrouver. Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Bonjour.
Au programme, qui va nous parler de sa belle voix dans notre saga musicale. Il y a de la voix, Steven Bellery.
Slimane.
On adore lire ou relire des classiques pendant l'été. Une suggestion, Bernard Lehu.
Les vestiges du jour, chef-d'œuvre du dernier lauréat du prix Nobel, Kazuo Ishiguro.
Une nouvelle séance de secrets de producteurs avec vous, Stéphane Boutsock.
Nous sommes en 84 avec André Téchiné. Rendez-vous avec rendez-vous.
Et j'ajoute à ce menu du jour une pépite et un duo surprise.
Laissez-vous tenter tout l'été
avec Anthony Martin sur RTL.
Il y a de la voix, partout il y a de la voix, avec vous Steven et le chanteur Slimane.
Le vainqueur de la saison 5 de The Voice a publié au mois de janvier Soloon, un deuxième opus éclectique entre morceaux presque rappés, chansons et pop, un disque qui a séduit déjà près de 100 000 acheteurs. Il y a de la voix aujourd'hui avec Slimane.
Alors moi c'est dissocié, il y a le jour où j'ai voulu chanter et le jour où j'ai entendu ma voix. Le jour où j'ai voulu chanter, c'était un égo trip d'un enfant qui voyait ses parents abasourdis devant un autre chanteur et je leur ai dit « Écoutez, moi aussi je sais chanter, j'ai chanté. » Et puis voilà, ça a commencé comme ça.
Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons.
Je suis rentré dans une chorale gospel et on chantait et d'un seul coup je sentais que en fait, j'étais en train de muer et que ma voix se cassait et depuis elle s'est jamais remise à niveau, elle est toujours restée cassée. La première fois que j'ai entendu ce son là dans ma voix, ça m'a fait peur, en même temps fait plaisir parce que d'un seul coup j'existais différemment.
Je ferai le bon choix en souvenir de toi, alors on danse encore sur les mêmes musiques, les mêmes pas.
J'entends ce son-là et je dis « Ah !» Et je me souviens avoir dit à un pote « Ah, écoute, regarde ma voix, fais ça maintenant !» Et il m'a dit « Ouais, c'est bizarre, ça se trouve que tu l'as cassé !» Et en fait, bon, il avait raison, elle s'était cassée parce que normalement, quand on mue, c'est pas très bien de chanter.
Elle a séché toutes mes larmes, tu sais. Elle a ramassé tes peaux cassées.
Je chantais tout le temps, partout, avec moi. Je suis quelqu'un de foncièrement complexé. Et je crois que le seul truc où j'ai jamais eu de complexe et où je me suis senti toujours libre et fier, c'est en musique. Ouais, j'étais petit, j'avais une espèce d'énorme sono. Ça faisait du bruit dans toute la cité quand je chantais. Et je me rappelle chanter « Que je t'aime », des trucs improbables. Et j'aimais ça. Je me posais pas de questions. C'était vivre.
Quelles sont vos voix repères à cet âge-là? Les voix qui vous nourrissent, qui vous bluffent, qui vous donnent envie de chanter?
Plein de voix complètement différentes. J'ai beaucoup aimé la soul, les grandes voix qu'on connaît, Aretha Franklin, James Brown et tout ça.
So good! So good! I got you!
Et ensuite, j'ai eu une période où je me suis vraiment intéressé à la chanson française. Par exemple, Léo Ferré, ça a été une vraie découverte pour moi. Barbara, encore plus peut-être. C'était très particulier parce que du coup j'avais ce qu'on appelle un beau timbre, on va dire, mais je chantais assez souvent faux, pour être très franc, et j'avais du mal à maîtriser cette voix qui était particulière, et en plus les peu de cours de chant que j'avais pris avec des gens ne la comprenaient pas non plus parce qu'elle était différente et qu'elle s'asseyait sur des bases différentes, et je l'ai apprivoisée en fait en étant avec elle, c'est-à-dire qu'à force de chanter des 4 heures par soir dans des bars, au bout d'un moment on la connaît quoi, comment elle est quand elle est fatiguée, comment elle est quand ça va, comment elle est quand on a bu un coup. Je crois que ma voix, c'est moi. Elle est vachement révélatrice de mon état. J'ai une voix assez grave, qu'elle est un peu rauque.
Est-ce que vous diriez que vous avez la voix de votre caractère?
Ouais, totalement. Parce qu'elle est changeante et elle est multifacette. Les profs de chant qui m'ont le plus appris sont des profs de chant qui font un travail plutôt sur les sensations et sur l'instinct plutôt que sur les règles. Et franchement, je vais être sincère, je suis pas du genre ni à en faire attention, ni à la préserver. C'est pas bien du tout. C'est un truc très instinctif chez moi. C'est plus un bon ami qu'un outil de travail. Et c'est surtout, le meilleur ami de mes mots pour l'instant. Et si je devais garder qu'une seule chose, je garderais mes mots. Moi, je garderais pas ma voix. Ma voix, ça a été juste l'outil pour pouvoir raconter mes histoires. Si j'avais su bien danser, ça se trouve que j'aurais été danseur et que j'aurais raconté d'autres histoires.
J'en suis là, rien que pour toi. J'en suis là,
comprends pas ça parce qu'elle a toujours été là, parce que je viens d'une école aussi particulière où vraiment chanter dans les bars. Par contre, je cherche beaucoup. Je cherche des sons. Découvrir de nouveaux sons chez moi avec ma voix, ça veut dire découvrir un peu de moi aussi. Donc, c'est bien.
Est-ce que vous aimez votre voix?
Je l'ai détestée parfois et j'étais fou amoureux parfois. J'ai des jours où je trouve que c'est la plus belle et j'ai des jours où je la trouve très moche.
Je suis quelqu'un de foncièrement complexé. Le seul truc où j'ai jamais eu de complexe, nous dit Slimane, c'est quand je chante. C'est vrai qu'il a un truc dans la voix, Slimane. Il a bien fait de se la casser, cette voix, à l'adolescence.
Il repart en tournée dès le 7 septembre. Il chantera notamment le 4 octobre à Brest, le 8 novembre à Marseille ou le 20 novembre à l'Olympia à Paris.
Il y a de la voix. Notre saga musicale de l'été revient bien sûr demain. Merci Steven. On passe au rayon livre, Bernard Lehu. Et un prix Nobel de littérature, s'il vous plaît, aujourd'hui dans votre bibliothèque idéale de l'été, l'anglais d'origine japonaise, Kazuo Ishiguro.
Vous l'avez bien dit.
Merci.
Le lauréat de l'an dernier. Alors un peu à la surprise générale d'ailleurs, même si son prix n'a absolument rien d'usurpé.
Et vous nous invitez à lire l'un de ses romans les plus célèbres, Les Vestiges du Jour.
Popularisé par l'admirable adaptation qui en a été faite par James Ivory en 1993 avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. Tous les deux, mais vraiment formidables.
Ah, Miss Kenton, Monsieur Cardinal vient juste d'arriver à l'improviste. Il va lui falloir sa chambre habituelle.
Je verrai cela avant de m'en aller.
Vous sortez donc ce soir?
Effectivement. On est jeudi.
Ah, bien sûr. J'avais oublié. Désolé.
Quelque chose vous ennuie?
Non, non.
Monsieur Stevens?
Oui?
J'ai à vous parler de quelque chose. L'homme que je vais retrouver ce soir, vous le connaissez, Monsieur Ben?
Ah oui, Monsieur Ben, bien sûr, oui.
Il m'a demandé de l'épouser. Cela mérite que je m'y arrête.
Je vois.
J'ai tenu à vous informer de la situation.
Oui, oh merci. C'est fort aimable à vous, Miss Kenton. Je vous souhaite une bien plaisante soirée.
Les vestiges du jour, ou comment s'obstiner à laisser échapper le bonheur et l'amour par devoir et fidélité aveugle à un maître. James Stevens, impeccable majordome au service d'un comte anglais, Lord Darlington, aime secrètement l'intendante du domaine, Miss Kenton. Mais engoncé dans sa fonction, il ne révélera jamais ses sentiments à la jeune femme. Elle pourtant n'attend qu'un geste de sa part par défi. Elle finit par lui annoncer son mariage avec un autre domestique. C'est la scène la plus intense du roman, celle qu'on vient d'entendre. Stevens joue l'indifférence, l'intendante se réfugie dans sa chambre en pleurs. Kazuo Ishiguro signe avec Les Vestiges du Jour une histoire d'amour absolument bouleversante, poignante et d'une tension insoutenable puisque inassouvie.
Et le livre d'Ishiguro s'inscrit aussi dans un contexte historique passionnant.
Nous sommes à la veille de la guerre et le maître du majordome Stevens, Lord Darlington, comme d'autres aristocrates anglais à la même époque d'ailleurs, milite pour un rapprochement avec l'Allemagne nazie. Des réunions secrètes sont organisées au château et là aussi, par devoir, Stevens ferme les yeux, se refuse à juger. Il ira jusqu'à renvoyer deux jeunes servantes juives sans aucune réticence morale. Au soir de sa vie, le vieux majordome, en proie au doute et miné par un sentiment de gâchis, tentera de renouer avec Miss Kenton. Si vous restez insensible au roman de Kazuo Ishiguro et si vous n'êtes pas prêt de verser une petite larme, alors vraiment, c'est que je ne comprends plus rien à la littérature. Les Vestiges du Jour à lire chez Folio.
Vous avez raison. Et le film de James Ivory à revoir également.
Oh oui.
Sans modération. Merci Bernard.
Merci messieurs. On se retrouve dans 30 secondes pour parler cinéma avec Stéphane Woodsock notamment.
RTL Matin, il est 8h51.
C'est l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Et on vous retrouve Anthony Martin.
Et avec Stéphane Boudsock et notre rendez-vous ciné de l'été secret de producteur. Alors on retrouve le producteur Alain Terzian. Il nous livre aujourd'hui les secrets entourant un film de 1985 réalisé par André Téchiné. Rendez-vous.
Drame passionnel qui raconte comment Juliette, jeune comédienne montée à Paris, trouve à se loger chez deux garçons, le tendre Polo qui est amoureux d'elle et l'ombrageux Quentin dont elle s'éprend immédiatement. Un trio sensuel, violent s'installe. Rendez-vous est l'exemple type de ces films à la genèse improbable qui deviennent des classique. Alain Terzian se souvient du matin d'automne 84 où tout a commencé.
Ça, c'était rigolo parce que je me souviens très bien que
Je buvais un café au comptoir, comme je faisais tous les matins. Et là, je vois rentrer un type formidable. Enfin, formidable, on ne savait rien. Je me dis, il ressemble à Téchiné. Alors, il me regarde, je le regarde, je ne sais plus ce qu'on se dit. Et puis, j'ai déjà fait donc quelques films. Hein. Et il vient vers moi et il me dit, je te reconnais, j'ai envie de travailler avec toi.
J'ai fait entrer Polo. Ça t'éviterait de lui mentir. Je me suis dit que si on était tous les trois ensemble, les choses seraient plus claires. J'ai même eu envie de Polo.
Je m'en fais mal.
Et toi, Polo, t'as pas envie d'elle?
Tu fais chier.
Ça sert à rien de s'énerver. Pourquoi se gêner? Ce serait tout de même plus simple si tout le monde couchait avec tout le monde, non?
Pour le café. Et puis alors, je lui dis, t'as pas une idée de quelque chose quand même? Parce que moi, j'ai tellement envie de tourner avec toi que... Écoute, il me dit, j'ai une idée, mais il faut me donner 15 jours pour l'écrire. Il avait le look du poète à la fois maudit et désespéré, et en même temps, il avait dans le regard une espèce de rayonnement que donne la passion, l'envie et tout. Il avait tout dans les yeux.
Avec toi, la pièce va devenir une vraie farce de sous-préfecture. Tu vas te faire huer, tu vas te faire traîner dans la boue, ça sera bien mérité. Tu es une petite minable, prête à tout pour exhiber ton nombril triste et mesquin. Tu exploites mon cadavre jusqu'au trône, et en plus, tu te sers d'elle. Elle qui a tout sacrifié pour un idéal qui te dépasse et que tu es en train de souiller sans vergogne. Je t'interdis de prendre sa place, tu entends? Je t'interdis de salir une histoire qui ne t'appartient pas.
Et on doit être début septembre. Je dis, mais je te demande qu'un truc. Hein. On fait un film, mais au mois de mai, il y a le Festival de Cannes où on m'a toujours dit, avec tes chinettes, tu tournes, tu vas à Cannes. Ça serait pas de bol si je tourne avec toi et qu'on va pas à Cannes. Là, par contre, je vais être totalement humilié et désespéré. Donc, promets-moi qu'on ira à Cannes si on fait un film tous les deux. Et moi, tu me fais dire ce que tu veux et on en fait un film.
Et c'était le premier Festival de Cannes de Juliette Binoche. Absolument. On peut s'intéresser à elle. Oui. Elle fait bien sûr partie du casting de Rendez-vous.
Elle a 20 ans à l'époque. C'est quasiment une débutante quand Téchiné en parle à Terzian.
On commençait à avoir du mal à trouver l'actrice en question. Puis un jour, il me dit, ça y est, je crois que je l'aime. Et là, l'exercice se corse pour toi parce que c'est une inconnue. Il me montre des essais qu'il avait fait en vidéo dans la cour devant le bureau là où on garait les bagnoles. Il me dit, tu vas voir, elle est géniale et tout ça. Il rentre, il monte les essais. Quelques années après, elle a pris l'Oscar. C'était Juliette Binoche et Une princesse était née.
Alors face à cette princesse, un acteur souverain, Jean-Louis Trintignant, dans le rôle de Skrusler, metteur en scène torturé de la pièce Roméo et Juliette, que répète Binoche.
Tu passes ta vie dans ce théâtre, c'est très mauvais de faire ça. Tu devrais sortir, te distraire. Faire l'amour.
Avec qui?
Tu m'as dit que tu habitais avec quelqu'un.
Avec Polo. Il est gentil, mais ça suffit pas.
Tu as déjà aimé quelqu'un?
Quentin.
Tu l'aimes parce que tu l'as perdu.
Et toi, t'as déjà aimé quelqu'un?
Ma fille. Et je l'ai perdue. Par ma faute. Juliette, c'était elle.
Jean-Louis Trintignant dit, mon petit Alain, je veux être dans ce film de Téchiné. J'ai dit, Jean-Louis, tu sais à quel point ça me ferait plaisir, on n'a pas une thune. Ben, il me dit, ça tombe bien, justement, je voulais te proposer de le faire pour pas une thune. Et donc, il l'a fait pour un franc. Symbolique à l'époque.
C'est dingue, hein, pour un franc. Reste Lambert Wilson qui joue Quentin. L'acteur est enthousiaste à l'idée d'aller défendre le film. En effet, sélectionné pour le festival de Cannes 85. Mais souci.
Lambert va dire, quel drame. Je joue au théâtre ce jour-là. Alors j'appelle le directeur du théâtre. Monsieur le directeur, elle marche bien votre pièce? Ah ouais. Ouais, ouais, regardez, là, dans 3 semaines, on est encore à moitié plein. Il me dit. Je dis, non, vous êtes complet, je vous achète la salle à 100%. Et j'ai acheté la représentation pour libérer Lambert Wilson et qu'on se retrouve en bas des marches du Palais des Festivals avec Lambert, avec Juliette, Jean-Louis, avec André Téchiné. On était tous là en bas.
Je t'ai vu dans ta grande scène. Bouleversante. Bravo, du grand art.
J'ai demandé quelque chose. Sors d'ici ou je te fais vider par le gérant.
Alors allons, du calme. Il faut voir les choses simplement. Je te veux. Maintenant tu vas me dire oui ou non. Si c'est oui, tu viens avec moi. Si c'est non, t'es débarrassé de moi.
Juliette Binoche, Lambert Wilson, Jean-Louis Trintignant, mais aussi Vadek Stanzak avaient rendez-vous avec André Téchiné en 85. Prix de la mise en scène, tiens d'ailleurs, à Cannes cette année-là.
Il a bien fait d'acheter la présentation au théâtre. Voilà, et la salle pleine. Philippe Sard, le compositeur fétiche de Téchiné, était encore une fois à la baguette pour la musique du film. Rendez-vous à voir ou à revoir en DVD chez MK2 Vidéo. On raffole de ses secrets de producteur et on vous retrouve demain. Merci Stéphane. Réécoutons maintenant un extrait des bons moments passés dans ce studio au cours des 10 derniers mois. C'est notre pépite du jour. Le 13 février, l'écrivain Tahar Benjelloun nous présentait à votre micro, Bernard Lehu, La Punition, un récit autobiographique de ses 19 mois de détention dans un camp militaire au Maroc. Parce qu'il était alors un étudiant de 20 ans qui s'opposait au régime en place, Tahar Benjelloun a vécu 19 mois de calvaire.
L'hiver, ça a été terrible parce que une des tortures qu'il nous infligeait, c'est de nous réveiller à 4 heures du matin et nous exposer soit sous la neige, debout, au garde-à-vous pendant 4 heures, avec un petit t-shirt et un petit short et des sandales. Et celui qui tombait recevait des coups de bâton sur la tête. Donc voilà, ce genre de choses. Et l'été, c'était autre chose. L'été, on nous faisait transporter des pierres pour construire un mur qui n'avait aucun intérêt à 5 kilomètres du camp et revenir avec d'autres pierres, etc. Ils en trouvaient chaque jour, ils trouvaient quelque chose pour nous emmerder et pour surtout nous faire souffrir. Pour eux, nous étions des femmelettes, et là, ils vont en faire de nous des hommes, c'est-à-dire des brutes et des abrutis. J'ai appris très vite que l'homme était capable de tout, et puis qu'il fallait dans la vie se battre pour ses idées, pour ses opinions, ses convictions, et qu'il ne faut pas baisser, se mettre à genoux, il ne faut pas abandonner.
Voilà l'enseignement que nous transmet Arben Jeloun dans son récit La Punition, paru cette saison chez Gallimard.
Oui, qui a attendu près de 50 ans donc pour raconter son enfer.
Un témoignage exceptionnel. Allez, un peu de musique pour s'évader. Voici tout droit sorti de notre Jukebox Estival, notre duo du jour. I love the free. Fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's open. Ah, c'est un moment de grâce,
oh oui.
Ça, tout simplement. Lady Gaga et Tony Bennett qui reprennent le classique The Lady is a Tramp. C'est sur l'album Duets, volume 2 de Tony Bennett, sorti en 2011, qu'on trouve cette merveille. À demain. Oh, the beach is divine. Lala, the Yankee. Gita's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. On était bien en train de danser comme ça. Anne-Sophie, n'est-ce pas? Il faut se rasseoir maintenant, parce que la matinale continue.
Et oui.
Et dans une poignée de secondes, le journal avec Anne Hoenaff.